Bien, je vous propose la lecture de deux textes de l'Écriture pour introduire notre réflexion de ce matin. Et tout d'abord, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous allons lire les versets 41 et 42. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Les versets 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis, un deuxième texte dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 133. Cantique des degrés de David. Et j'ai un titre qu'il a donné dans ma Bible sur l'amour fraternel. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous nous sommes entretenus déjà de la communion avec Dieu. Et j'aimerais ce matin vous entretenir de la communion fraternelle. Je ferai tout d'abord une première remarque. Quand nous lisons le début du livre des Actes des Apôtres, nous assistons à la naissance de l'Église de Jésus-Christ, à l'Église à laquelle nous appartenons, des hommes et des femmes à l'écoute de la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ont ouvert leur être à ce message. Et en ouvrant leur être à ce message, l'Écriture nous dit que ces personnes sont devenues des enfants de Dieu. Elles se sont retrouvées ensemble pour dire leur reconnaissance à Dieu, pour dire à Dieu leur amour, pour écouter ensemble l'Écriture, pour écouter la parole de Dieu. Et ainsi est née l'Église de Jésus-Christ, l'Église à laquelle nous appartenons. Mais il est dit de cette première Église, dans ce livre des Actes, qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Ainsi, pour ces premiers chrétiens, il y avait un besoin. Ce besoin était de se retrouver avec leurs frères, leurs sœurs, de même foi, pour adorer, pour prendre ensemble le repas du Seigneur, pour prier, pour lire et méditer la parole de Dieu, pour écouter l'instruction, l'enseignement de la parole. Il persévérait également, nous dit le texte, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire d'être un ensemble devant le Seigneur. C'était un besoin. Et c'est également un besoin aujourd'hui. Le chrétien ne peut être un être isolé qui vit quelque part dans un village ou une ville, dans un immeuble, sous le toit d'une maison. Il ne peut être seul dans son petit coin. Il a besoin de la communauté et de ses frères et de ses sœurs. Comme les chrétiens du premier siècle. Et si Dieu saisit ici et là des hommes et des femmes, leur montre l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et ces hommes qui acceptent l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sont ajoutés à l'Église et doivent se retrouver avec des frères et des sœurs pour vivre avec eux. Et je voudrais dire que cette communion fraternelle, ce fait de se retrouver ensemble, est une formation extraordinaire. On arrive tout feu, tout flamme, on arrive plein d'ailes, c'est merveilleux, Dieu nous a saisis, nous a sauvés, et puis nous voilà avec d'autres pour faire monter vers le trône de la grâce notre reconnaissance. Et puis au fur et à mesure des semaines et des mois, nous découvrons ce qu'est l'Église de Jésus-Christ, à savoir des hommes et des femmes avec leur caractère, avec leur tempérament, avec leurs points forts et leurs points faibles, enfin, et des hommes et des femmes que Dieu a créés. Et je dois, moi, avec mon caractère, m'adapter. Je dois, en découvrant l'Église de Jésus-Christ, qui n'est pas une Église parfaite, puisqu'elle se compose d'hommes comme moi, et comme je sais que je suis loin d'être parfait, eh bien, j'apprends très vite que ceux qui m'entourent aussi sont loin d'être parfaits. Mais l'Écriture me dit, tu vois, tu es imparfait, et ils sont imparfaits. Mais ensemble, vous devez persévérer dans la communion fraternelle. Vous devez être un ensemble. Dans ce texte d'Actes 2, 42, il est montré que la communion fraternelle n'est pas simplement un sentiment, se sentir bien. Ce n'est pas cela, la communion fraternelle. La communion fraternelle est un engagement de tout l'être, de toute notre personne, dans le but d'être un avec tous mes frères. Un avec pas seulement ce que je choisis, mais un avec tout ce que Dieu a choisi pour être là, dans notre rassemblement. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui choisit ceux qui seront là, mais c'est Dieu lui-même et qui les choisit. Et puisque Dieu a choisi ceux qui seront à mes côtés, il importe donc que je m'applique à être en communion, un avec tout ce que Dieu a choisi pour vivre une vie forte avec ces personnes. Un avec. Je voudrais dire qu'émettre quelques réserves sur l'un, seulement un de mes frères, serait déjà mettre Dieu en question, puisque c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui a œuvré, c'est Dieu qui a amené les uns et les autres dans ce lieu. Rien ne se fait sans sa force, sans son action. Et il importe donc que je sois un homme, une femme, qui fait tous les efforts nécessaires pour être le plus un avec chacun de mes frères et de mes sœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Un avec tous mes frères, sans exception. Oh, je voudrais redire ce que je viens d'exprimer déjà, à savoir que Dieu a choisi lui-même des hommes et des femmes. Il les a choisis avec des caractères si différents, avec des personnalités, des idées si différentes des miennes. C'est Dieu qui est l'auteur de cet acte. C'est Dieu qui les a sauvés. Comment pourrais-je, moi, homme, devenu enfant de Dieu par l'intervention du Seigneur dans ma vie, comment pourrais-je mettre un seul de ces appelés de côté? Je ne le puis. Et si je le fais, je mets dans ma vie une barrière de relation, non pas seulement avec mon frère, mais surtout avec Dieu. N'avez-vous pas remarqué que quand je mets une barrière devant moi, entre moi et tel frère, qu'arrive-t-il? Eh bien, peu à peu, notre relation s'estompe. Mais peu à peu aussi s'estompe ma relation, ma vie personnelle avec le Seigneur. Il persévérait dans la communion fraternelle. Dire « il persévérait » signifie effort. Signifie que la communion fraternelle n'est pas un quelque chose qui tombe du ciel une fois pour toutes. La communion fraternelle, certes, quand on vient dans un lieu semblable, on en jouit. Et quelqu'un qui arrive en ayant rencontré Jésus-Christ jouit tout à coup d'une communion extraordinaire. Mais l'ennemi s'acharne très vite contre la communion fraternelle. Quelqu'un a dit, et je le crois, que ce que Satan ne peut pas imiter, et c'est justement la communion et qui existe entre les enfants de Dieu. Dieu fait des miracles, et nous le croyons. L'ennemi fait des miracles, et il le peut. Mais la communion fraternelle, l'amour véritable, qui naît entre hommes et femmes de différentes origines, d'opinions diverses, ça, il ne peut le créer. Quand il est présent, c'est au contraire la dispute, c'est au contraire la séparation, la division. Et quand le Seigneur est là, c'est l'unité et l'amour. Une seule chose que l'ennemi ne peut imiter, et c'est la communion fraternelle. Voilà donc le besoin qui est pour chacun d'entre nous, besoin de communion. Je voudrais évoquer maintenant les raisons de notre besoin de communion fraternelle. Je crois qu'une des raisons, c'est pour manifester Christ au monde. La parole de Dieu montre que l'amour, que la vie qui nous unit est un flambeau au regard de ceux qui nous entourent. Le monde observe et découvre que nous sommes un et que nous luttons pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Et quand ceux qui nous entourent découvrent cet amour, c'est ce qui les marque le plus. Posez la question à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu au cours de ces dernières années. Et vous verrez ce qui les a marqués le plus. Certes, la parole de Dieu, prêchée, annoncée, lue, est déterminante dans une vie. Mais il est un autre point fort, c'est, et nous devons le proclamer, et cet amour qui nous unit les uns aux autres. Et c'est donc une des raisons de cette unité que Dieu a voulu. Une autre raison, c'est que je suis un homme pécheur. Et Dieu ajoute à son corps, à l'Église, des hommes et des femmes pécheurs, sauvés par grâce, et des hommes et des femmes tentés et capables de chutes les plus pitoyables. Et dans le partage, dans la communion fraternelle, c'est un point fort de se retrouver avec des frères et des sœurs qui nous aideront, qui nous épauleront et qui nous aideront à cheminer de l'avant pour le Seigneur. Je dirais ensuite que le rassemblement, la communion, les uns avec les autres, nous aide aussi à découvrir nos dons et à les mettre en application. Vous noterez avec moi que les dons sont pour l'édification de l'Église et non pas pour un but personnel. Dieu n'intervient pas pour un homme, mais pour son corps. Il intervient pour l'Église de Jésus-Christ. Il importe donc d'être là, dans le corps de l'Église, et dans ce corps de l'Église, de s'engager pour pouvoir être utile dans l'œuvre du Seigneur. Parlons maintenant des obligations de la communion fraternelle. Parce que s'il y a une communion fraternelle, et si l'Écriture exprime certaines raisons pour la communion fraternelle, l'Écriture dit aussi les obligations. Dieu a fait que nous soyons ensemble, a fait que d'autres ici et là soient ensemble. Et ceci nous donne des obligations. Tout d'abord, je dirais qu'il importe d'avoir des relations vraies. Et pour avoir ces relations vraies, il faut apprendre à s'accepter et à accepter l'autre tel qu'il est. Et vous noterez que j'ai dit s'accepter avant de dire accepter l'autre. Parce qu'en fait, Dieu m'a saisi et m'a mis dans l'Église, dans son corps, avec mon caractère, avec mon tempérament. Il m'a mis là tel que je suis. Et il importe de réaliser que si je suis ce que je suis, c'est parce qu'au-dessus, il y a un Dieu grand, souverain, tout-puissant, qui a fait ce que je suis, qui m'a donné un caractère, et qui m'a donné aussi un physique. Certes, il y a des circonstances, il y a des parents, il y a d'autres influences. Mais derrière tout cela, il y a un Dieu tout-puissant. Et je dois donc accepter la personne que je suis, que Dieu a saisi, que Dieu a gracié, que Dieu a mis dans son corps, l'Église. Je dois l'accepter et profiter de cette personne que je suis. J'allais dire s'aimer soi-même, si on ose le dire. Nous pourrions dire autrement, être à l'aise avec soi-même, avec l'être que nous sommes. Mais être à l'aise avec la personne que nous sommes, s'accepter soi-même, signifie reconnaître que Dieu est au-dessus de moi et qu'il a fait, comme je le disais tout à l'heure, la personne que je suis. Et je disais ensuite, accepter l'autre. L'autre, avec son physique, l'autre avec son caractère, l'autre avec ses dons. Je n'ai pas à envier mon frère ou ma sœur comme il n'a pas à m'envier. Dieu a fait ce que nous sommes et il importe de le reconnaître et de savoir que Dieu nous confie des rôles différents dans son corps. Il y a donc nécessité de collaboration les uns avec les autres pour former ensemble le corps que lui veut pour le lieu où nous sommes. Et je voudrais juste poser la question à chacun. Est-ce que j'ai à cœur d'accepter les autres? Est-ce que je persévère dans cet objectif de la communion fraternelle, d'être un avec l'autre? Vous savez, nous aimerions souvent que l'autre corresponde à notre image, un peu à ce que nous sommes, à notre caractère, à notre manière de voir, à notre manière de faire. Ah, s'il était dans ce cadre-là, ça irait très bien. Mais il se trouve que, souvent, justement celui que Dieu a mis à nos côtés n'entre pas dans ce cadre. Et je crois que Dieu fait bien de mettre à nos côtés, justement, ces hommes et ces femmes avec lesquels nous nous frotterons bien souvent. Vous savez, quand nous lisons l'Écriture, nous apercevons qu'il est beaucoup question de pardon et du fait que l'homme et le chrétien doivent apprendre le pardon. Et vous savez, pour qu'il y ait pardon, eh bien, il faut qu'il y ait accrochage. Il faut qu'il y ait des fois où on n'est pas d'accord. Et Dieu a fait que dans l'église de Jésus-Christ, il y ait des hommes et des femmes si divers que souvent, on se frotte les uns aux autres. Mais vous savez, ce n'est pas là le problème. Le problème réside ailleurs. Et c'est là une des obligations de la communion fraternelle, à savoir le pardon. Vous savez, ce qui importe, c'est de savoir demander pardon à son frère et à sa sœur. Ce n'est pas tellement, à un moment donné, d'avoir dit un mot qui dérangeait ou avoir fait un geste qui n'était pas bon. Certes, nous n'aurions pas dû. Et nous avons péché, nous avons fait mal. Mais ce qui importe, c'est d'apprendre le pardon. Un Dieu tout-puissant qui veut que j'apprenne le pardon, à pardonner et à demander pardon. Je voudrais vous poser une question. Depuis quand n'avez-vous pas demandé pardon à quelqu'un de vos frères? Vous savez, c'est un peu la mesure d'une vie spirituelle. Peut-être êtes-vous de ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire pour un rien de demander pardon. Et vous savez, nous le voyons au niveau d'une famille. Je crois que c'est nécessaire parfois de dire à ses enfants, tiens, pardon, excuse-moi, je n'aurais pas dû agir ainsi, je me suis irrité. Mais cela est nécessaire aussi au niveau de sa famille spirituelle, se pardonner. Vous savez, j'ai eu un frère, il n'est pas là, alors on peut en parler. J'ai un frère. Et que de fois nous nous sommes heurtés, mais nous avançons toujours la main dans la main dans le combat pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a eu au fur et à mesure des années? Bien des fois, on s'est dit, ah, excuse-moi, je te demande pardon. J'ai fait ceci ou cela, je n'aurais pas dû dire telle parole. Cela est vrai au niveau de frères et de sœurs sur le plan de la chair. Mais cela doit être une réalité aussi sur le plan de la vie spirituelle. Il ne peut y avoir de communion fraternelle sans ces mots de pardon. Quelqu'un a dit, quand on apprend à se pardonner, quand on demande pardon, c'est un ciment. Vous ne l'avez pas noté dans votre vie? Quand deux êtres se rencontrent et puis se disent, je te demande pardon. Vous savez, il y a un ciment, quelque chose qui se fait à ce moment-là, qui est solide et qui nous attache les uns aux autres, qui fait que la communion fraternelle s'approfondit encore beaucoup plus. Mais quand on ne dit pas pardon, quand on ne demande pas le pardon des autres, au lieu du ciment, c'est la pierre qui se détache. Et vous savez, la pierre qui se détache, c'est souvent nous. Et quand on se détache du mur, on n'est plus utile. C'est Michel qui l'autre jour nous donnait une belle image du mur. Mais quand une pierre n'est plus dans le mur, elle n'est plus utile. Obligation de la communion fraternelle. S'accepter, accepter l'autre, se pardonner mutuellement, demander pardon, reconnaître, n'est-ce pas, ses erreurs et demander pardon. Et je dirais aussi prendre l'initiative. que de fois nous attendons que les autres viennent à nous. Et la communion ne s'établit pas comme elle le devrait. Nous ne sommes pas un avec tel ou tel. Oh, nous attendons peut-être, mais ça ne vient pas. Il faut savoir prendre l'initiative. L'initiative avec les nouveaux venus, mais l'initiative aussi avec tous ceux qui sont là. Aller vers les personnes pour les rencontrer, pour les écouter, pour prier avec eux, pour vivre des moments détente avec eux. Savoir prendre l'initiative pour les inviter peut-être pour un repas. Vous savez, il y a un passage qui m'a toujours beaucoup étonné dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit que certains ont accueilli des anges sans le savoir. Mais c'est important, n'est-ce pas, cette porte ouverte qui fait que nous rencontrons des frères et des sœurs, que nous nous unissons et que nous pouvons aller ainsi de l'avant pour la gloire de Dieu. Et je voudrais que chacun se pose la question. Est-ce que je prends l'initiative de la communion avec mes frères et mes sœurs? Oh, je sais ce que c'est, on a des atomes crochus, alors notre porte s'ouvre toujours plus facilement pour certains. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais attention, c'est quand même un danger. Il importe que notre porte s'ouvre à chacun. Et je voudrais vous poser la question. Il persévérait dans la communion fraternelle. Faites-vous cet acte qui vous permet de persévérer dans la communion fraternelle? Et persévérer dans la communion fraternelle, ce n'est pas seulement de poursuivre avec ceux avec qui je suis bien, mais c'est justement additionner d'autres communions avec d'autres personnes. Il importe de vivre cela dans notre vie. Et dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, vous pouvez le lire si vous voulez, il est montré une autre obligation, c'est celle de veiller les uns sur les autres. Cela ne signifie pas de prendre la longue vue et de regarder ce que fait l'autre, d'espionner mon frère ou ma sœur pour dire ensuite tout le bien ou le mal plutôt que je pense de lui ou d'elle. Mais l'Écriture nous dit que je dois avoir le souci du bien-être de mon frère. Je dois avoir le souci de l'aider, de l'encourager, de le redresser avec douceur. Je dois avoir le souci d'être à ses côtés, d'être un aide. Une aide tout au long du chemin que le Seigneur nous donnera de parcourir ensemble. C'est parfois difficile d'intervenir et parfois nous ne savons pas comment. Et vous savez, plus on est proche, plus il y a communion et plus facile et c'est de dire à tel ou tel, attention, tu te relâches. Attention. Tu t'égares. Et nous devons apprendre ce que l'Écriture nous enseigne, le devoir de veiller les uns sur les autres. Il y a enfin un dernier point que j'aimerais souligner dans la communion fraternelle, c'est de porter les fardeaux des autres. Nous avons tous le long de notre parcours et des expériences et des souffrances, des cicatrices, des difficultés, mais aussi des joies, des jours de bonheur et des moments extraordinaires. Est-ce que ce qui préoccupe l'autre ce qui préoccupe mon frère me préoccupe aussi. Dans quelle mesure est-ce que je m'identifie à l'autre qui vit dans tel moment de joie ou dans tel moment de souffrance? Moi, j'ai été étonné, et je le suis encore, par nos rencontres de prière. Je l'ai à cœur, alors je le dis en toute fraternité. Vous savez, l'Écriture nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. Et quand on est là et qu'on donne nos sujets de prière, on donne nos fardeaux. On donne nos inquiétudes, nos souffrances. Porter le fardeau des autres, c'est justement cette oreille tendue qui dit « Tiens, il a telle joie, il a tel problème. » Et donc, dans nos moments de prière, porter le fardeau de mon frère, de ma sœur, c'est justement m'inquiéter de lui et de ses sujets de préoccupation. Or, très souvent, quand nous partageons nos sujets de prière et que nous prions ensuite, nous prions pour les sujets que nous avons nous-mêmes donnés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je le dis parce que ça me tient à cœur. Et je me dis une chose qui est très importante, c'est que nous portons nous-mêmes nos fardeaux. Au lieu de laisser nos frères porter nos fardeaux. Moi, je dois être à l'écoute des autres et, ayant entendu leur souffrance ou leur joie, je dois porter leur fardeau et les laisser porter avec moi mon fardeau que je porte habituellement. Réfléchissez et agissez en conséquence. C'est important. Vous savez, la Bible nous dit, lorsque deux ou trois s'unissent pour demander quelque chose ensemble au Père, il leur donne. Et c'est quoi ces deux ou trois qui s'assemblent? Ben, c'est justement quand quelqu'un dit un fardeau, au lieu de lui-même prier pour ce fardeau, il va laisser l'autre s'en inquiéter. Et inversement, quand l'autre dit, eh bien, je vais m'en saisir à pleine main pour porter l'autre. Ainsi le Père donnera réponse à nos prières. Porter les fardeaux les uns des autres. Le terme porter est très fort. Ce verbe nous dit prendre à pleine main. Est-ce que je prends à pleine main l'inquiétude, la souffrance? Est-ce que je prends à pleine main la joie de tel ou tel pour aller de l'avant avec lui? Porter les fardeaux des autres. Oh, vous avez cela dans plusieurs textes de Galates 6, de Romains 15. À plusieurs reprises, c'est dit porter les fardeaux des autres. Il importe que nous agissions pour que notre communion fraternelle devienne plus forte, plus vraie. Il ne peut y avoir de communion fraternelle si je vis à l'écart. Ainsi, il importe que je sois présent aux rencontres de l'Église. Il importe que je vive le plus proche possible de mes frères et de mes sœurs. Si je m'isole, et plus je m'isole, moins j'ai de communion fraternelle, et moins j'ai de vie spirituelle avec le Seigneur. Plus je m'approche de mes frères pour lutter avec eux, plus je découvrirai la nécessité de demander pardon et de pardonner. Plus je prendrai l'initiative et plus je découvrirai de beauté, de grandeur, mais aussi de misère et de problèmes. Plus j'aurai à prier et à porter de fardeau. Mais le Seigneur nous donnera une vie ensemble, une vie forte, une vie extraordinaire pour la gloire du Seigneur. Vous avez entendu ce verset du psaume 133 où il est dit « Lorsque les frères sont ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » C'est une réalité. Quand nous sommes un, la bénédiction est là. Alors, à nous de nous poser les questions essentielles sur notre communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire pour avoir une communion fraternelle intense? Vous savez, souvent, nous sommes réunis pour étudier l'Écriture. Nous avons aussi nos moments intimes pour lire l'Écriture, pour étudier la parole. Et cela nous donne de la connaissance. Mais la communion fraternelle est le champ de l'application. Il ne sert à rien de connaître si nous n'appliquons pas. Et donc il importe de plonger ses regards dans la parole, d'étudier et ensuite d'appliquer dans notre vie. Je dis cela pour chacun, pour moi le premier et pour nous tous. Je voudrais ensuite dire dans ces mots de conclusion que la vraie communion fraternelle n'est pas quelque chose comme ça d'acquis. C'est un processus qui parfois est long. Il y a toujours un petit commencement, comme avec un grain qu'on jette à terre. Un grain qu'il faut arroser, et il faut travailler avec amour. Et ensuite ça germe, et ensuite apparaît une petite plante, toute petite, minuscule. Mais à peu elle grandit et porte quelque chose d'extraordinaire. Ainsi en est-il de la communion fraternelle avec ceux qui nous entourent. Il y a de tout petits commencements qui doivent aller de l'avant et porter du fruit à la gloire du Seigneur. Cela demande des efforts constants, cela demande des efforts réguliers et une victoire quotidienne sur nous-mêmes contre la communion fraternelle. Le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes.